Alors en fait, c'est 10 ans avant, enfin même c'est en 2010 que j'apprends que j'ai cette maladie. J'avais des symptômes à 14 ans, j'étais sportive de haut niveau, je faisais du basket. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu très très mal sous les pieds. Donc j'étais obligée d'arrêter, alors que moi je me voyais être vraiment sportive de haut niveau. J'ai demandé à ce spécialiste, qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a répondu, mais froidement, hein, très froidement, il m'a répondu, tu vois, avec ton centre antidouleur, et puis tu fais du sport, enfin, tu continues à faire du sport. Et moi, je pouvais plus rien faire, j'étais sous des traitements très lourds, j'étais l'ombre de moi-même, j'avais trop de douleurs, je passais mon temps alité et tout ça, c'est un voyage hyper intense. Je pense que quand je vais décrire, je vais vraiment m'en rendre compte. Là, des fois, j'ai des briques qui me reviennent, mais c'était hyper intense. Là, je vais pouvoir le digérer. C'est toujours après coup, quand on écrit des choses, qu'on revoit. Et d'ailleurs, la marche fait ça. Enfin, tu rencontres quelqu'un. En fait, après, là, tu penses à cette rencontre. Tu te dis, mais pourquoi il était là sur mon chemin? Pourquoi?
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Violette Duval. Bonjour Violette.
Bonjour Pierre-Arnaud.
Bonjour Violette. Est-ce que, merci de prendre ce temps, je suis content de t'avoir sur l'émission. Ce qui m'a intrigué effectivement, c'est qu'on a été, je sais plus comment on a mis en relation, mais j'ai dû repérer ton aventure sur LinkedIn, je crois que c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. Et donc pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que je te propose, c'est que tu commences par te présenter s'il te plaît.
Pas de souci. Moi, je viens de réaliser une aventure qui a duré à peu près un an où j'ai marché de avril 2019 jusqu'à juin 2020 avec une poussette pour la fibromyalgie, qui est une maladie dont je suis atteinte. Et j'ai marché pour essayer de faire connaître et reconnaître cette maladie je vais détailler tout ça, mais c'était le gros projet, sachant que j'ai toujours plus ou moins voyagé, mais ça, c'était un gros projet qui me tenait à cœur, et c'est le projet que j'ai fait il y a tout récemment.
D'accord, ça c'est un an et deux mois. T'as marché pendant un an et deux mois, t'as fait combien de kilomètres en tout?
Alors, j'ai fait 6765 kilomètres, j'ai longé le littoral, en fait, je suis partie du Mont-Saint-Michel, je suis originaire de Normandie, donc c'est le point fort, je suis partie du Mont-Saint-Michel et j'ai longé le littoral français, espagnol, portugais, espagnol, j'ai eu une coupure Covid arrivée en France, j'étais à pas loin de Perpignan, et donc là, j'ai dû m'arrêter comme tout le monde, hein, en mars 2020. Et j'ai repris, il me restait 15 jours, donc j'étais un peu dégoûtée. Et du coup, j'ai repris et j'ai fini le mi-juin. Alors, je ne sais plus exactement la date, mais je crois 18 ou 20 juin.
D'accord. Donc, tu as fait le tour de toute la péninsule ibérique en partant du Mont-Saint-Michel. Donc, tu n'as pas fait finalement la Normandie dans son ensemble, ni Picardie et le Nord.
Non. Je suis partie. J'habite à côté. Enfin, mes parents habitent à côté de Granville, donc en gros, il y a 45 minutes en voiture. Bon, c'est pas à pied, mais ça aurait fait une journée de. Il y a une journée de marche, mais je suis partie du Mont-Saint-Michel parce que c'était le point le plus, qui représente le plus la Normandie. Alors, c'est en Normandie, pas en Bretagne, hein, attention. mais je veux pas vous embêter les Bretons, mais en fait, voilà, c'est en Normandie. Et du coup, c'était l'endroit le plus symbolique. Donc, je suis partie d'ici. Et pour longer un maximum, j'ai longé toute la côte bretonne. Déjà, ça m'a pris énormément de temps. Je me suis vite aperçue qu'il y avait énormément de côtes, que c'était dur, qu'il fallait pousser la poussette. Mais j'avais un but. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de faire ça, quoi. Et puis c'était plein de rencontres.
C'est on va en parler beaucoup de ce projet. Tu dis que tu viens du coup de Normandie. Quand est-ce que tu apprends que tu es atteinte de cette maladie?
Alors en fait, c'est 10 ans avant, enfin même c'est en 2010 que j'apprends que j'ai cette maladie. J'avais des symptômes à 14 ans, j'étais sportive de haut niveau, je faisais du basket. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu très très mal sous les pieds. J'étais obligée d'arrêter, alors que moi je me voyais être vraiment sportive de haut niveau, j'allais rentrer en sport études, enfin je voulais être prof de sport, je voulais jouer en championnat de France, enfin je jouais déjà en championnat de France, enfin pour moi c'était normal, c'était ma passion, et puis j'étais obligée de m'arrêter. Et au début ils ont pensé que c'était une fracture de fatigue, la fatigue, des problèmes, ils ont jamais trouvé, et il s'avère qu'après 10 ans après j'ai eu des gros problèmes dans tout le dos, tout le rachis, enfin en fait j'ai continué mes études. J'ai fait un master de comptabilité, j'ai intégré une grosse entreprise d'audit, et puis au bout de 2 ans j'étais vraiment pas bien du tout, et on a eu du mal à me diagnostiquer. Les médecins ne voulaient pas entendre parler de fibromyalgie, mais j'avais tous les symptômes. Donc au bout d'un moment j'ai fait une école ludo où j'arrivais pas à la faire parce que j'avais vraiment des douleurs. En gros, la fibromyalgie, on a des douleurs musculaires et articulaires en permanence dans tout le corps. Donc c'est un peu galère. Et en gros, c'est comme si on avait une grosse grippe en permanence, avec vraiment des douleurs, des brûlures, des douleurs musculaires intenses, des crampes, des brûlures, des piqûres. Donc c'est assez contraignant et assez handicapant. Mais quelque part, bon, moi j'ai été diagnostiquée assez rapidement finalement, puisque je suis allée de moi-même voir un spécialiste qui m'a diagnostiquée. En 2 minutes, il m'a dit que j'avais ça. Voilà, j'étais tellement pas bien. Mais bon, j'ai perdu mon emploi parce que la sécurité sociale ne voulait pas de mes arrêts de travail. C'était très compliqué. Je suis retournée chez mes parents. J'ai été suivie en centre antidouleur. Enfin, on passe d'une vie où on était à peu près normal à une vie où on passe beaucoup de temps entre le centre antidouleur, les kinés, et puis c'est difficile, quoi. On passe du statut de... Il y a pas de... En fait, le problème de la fibromyalgie, c'est que il n'y a pas de remède miracle, en fait. On nous dit qu'il faut continuer à faire du sport, mais sincèrement, c'était à l'époque, je j'envisageais pas ça, je comprenais pas quand on m'a dit, j'ai demandé à ce spécialiste, mais qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a répondu, mais froidement, hein, très froidement, il m'a répondu, tu vois, avec ton centre antidouleur, et puis tu fais du sport, enfin, tu continues à faire du sport. Et moi, je pouvais plus rien faire, j'étais sous des traitements très lourds, j'étais l'ombre de moi-même, j'avais trop de douleurs, je passais mon temps alité et tout ça, donc je comprenais pas, en fait, ce qu'il me disait. Mais quelque part, je pense que des années après, je l'ai entendu, et c'est quelque part vrai, quoi. Après, on est tous différents face à la douleur, ce qui s'est passé, c'est que donc je suis retournée chez mes parents, j'ai fait énormément de kiné, je suis allée au centre antidouleur, et puis je me suis aperçue qu'au centre antidouleur, je servais de cobaye, ils savaient pas trop, en fait ils me donnaient des doses, je prenais des médicaments pour les épileptiques. Déjà je comprenais pas pourquoi je prenais ça, mais en gros ça t'inhibe les neurones, et les neurones de la douleur fonctionneraient mal dans la fibromyalgie, mais concrètement j'étais un zombie, quoi. Donc j'avais une accoutumance, j'étais pas bien, il fallait que je mange tout le temps, et je me suis dit, mais ça, je peux pas gaffe, enfin, c'est pas possible. Et surtout, je me suis aperçue, il m'avait dit d'aller jusqu'à un palier, et à un moment donné, il me dit, tu peux aller plus haut. Et là, il m'avait dit le palier max, tu vois. Et là, je me dis, mais non, mais là, c'est trop, quoi. À un moment donné, faut arrêter. Et j'ai compris que, en fait, très vite, j'ai compris que il pouvait rien pour moi. Et, en fait, le corps médical est très impuissant face à cette maladie, puisque même si la maladie, on la connaît depuis un certain nombre d'années, elle est reconnue par l'OMS. Dans les années 80, semblerait-il, on l'a découverte, mais apparemment, moi, j'ai discuté avec des gens qui, dans les années 60, en école de médecine, ils en parlaient, donc, bon, voilà. Et en fait, ça a été reconnu comme maladie par l'OMS en 92, donc c'est pas... C'est assez récent, il n'y a pas vraiment de recherche dessus, ou très peu, et pourtant, ça touche, 3 à 4 millions de personnes en France, et 3 à 4% de la population mondiale voilà, enfin, dans le monde, quoi. Donc,
mais non.
Donc,
ah ouais.
Ah ouais, c'est énorme en fait. C'est pas énorme. Et le pire, c'est que on n'apparaît pas vraiment dans les chiffres. On en parle peu. Après, on en a parlé puisque Lady Gaga et Morgan Freeman ont cette maladie. Mais ça reste, étant donné que Lady Gaga, elle est très controversée. En plus, c'est une maladie de beaucoup de femmes. Hein, ça touche à 80% les femmes, plus que les hommes, du coup, à 20%. Et on a tendance à dire bah, que les femmes, elles ont mal, et c'est normal. Donc, on ne croit pas. Le pire du pire, c'est que de 14 à 25 ans, on m'a dit que toutes mes douleurs, c'était parce que j'ai eu mal aux pieds. Après, j'ai eu mal dans les mains, je pouvais plus écrire. Après, enfin, la fac, c'était compliqué. Après, j'ai eu vraiment tout le corps pris, et on me disait, mais c'est dans ta tête, quoi. Et bon, je savais pertinemment que c'était pas dans ma tête, mais c'est assez destructeur de dire ça, parce que t'en viens même à te dire, bon, bah, c'est peut-être moi qui créais mes propres douleurs, mais en fait, j'ai fait du sport de haut niveau, je suis pas douillette, enfin, je comprenais pas. Et c'est ça, en fait, cette maladresse et cette maltraitance enfin, je suis désolée, mais c'est de la maltraitance des médecins qui sont là et qui te rigolent au nez et qui te disent, mais t'as rien, quoi. Ben, voilà, ça a été je pense, le plus dur. Mais c'est ce qui a créé en moi cette frustration, en fait, de pas savoir ce que j'ai, on m'a toujours dit que c'était dans ma tête. C'est ce que j'ai quelque part recraché dans tout ce projet. Et c'est ce qui m'a ultra motivée. Au-delà des personnes qui me suivent, j'ai été énormément suivie, donc, enfin, par des personnes qui ont la maladie, donc ça m'a hyper motivée, mais parce que c'était dur, faut pas se mentir, pousser une poussette, c'était la poussette, c'était parce que je pouvais pas porter, mais voilà, c'était quand même ultra dur, mais voilà, j'avais vraiment des motivations et toute cette frustration cumulée, quoi.
Et alors, c'est hyper intéressant, je voulais pas te couper, comment ça se passe, du coup, cette maladie? Peut-être si on peut rapidement en parler. Est-ce que c'est quand tu bouges l'articulation, ou par exemple, si tu ne bouges pas et t'es assise, t'as quand même mal?
Alors, en fait, je suis mieux en mouvement, et c'est beaucoup comme ça chez les fibromyalgiques, c'est qu'on est beaucoup mieux en mouvement, mais encore faut-il pouvoir se mettre en mouvement, parce que le mouvement crée, quand tu marches, par exemple, ça crée des endorphines, donc c'est de la morphine naturelle, donc tu te sens un peu mieux, mais il faut pouvoir le faire, parce que t'as tellement de douleurs, c'est des douleurs musculaires et articulaires, et en fait, les douleurs articulaires, c'est comme de l'arthrose, donc ça fait super mal, c'est des douleurs aiguës dans les os, sur des points, alors il y a 18 points, mais en gros, moi je pense qu'il y en a bien plus, hein, puisqu'ils oublient les mains et les pieds, donc ça fait déjà 4 de plus. Mais en fait, t'as des points douloureux, donc très, et des douleurs musculaires, voilà. Donc c'est sûr, quand t'es à la chaleur, t'as un peu mieux, dans notre vie, en général, on est obligé de s'asseoir. Par exemple, s'asseoir, pour moi, les positions statiques me posent énormément de problèmes, mais j'ai envie de dire, moi, par exemple, j'ai du mal à faire du vélo, mais il y a des personnes qui font du vélo. Il y a des personnes qui font absolument rien, qui sont en fauteuil roulant, parce que vraiment, elles sont trop en crise. Enfin, même moi, pendant un moment, j'étais pas bien, quoi. Donc, et ça peut aussi, il y a certaines personnes, c'est des années et des années qu'elles restent en fauteuil roulant, des années qu'elles peuvent rien faire. Et souvent, en plus, il y a une errance médicale qui fait que tu as pris énormément de mauvais... Enfin, il n'y a pas de... Tu as pris énormément de médicaments tu t'es déconditionné parce que en moyenne la fibromyalgie c'est 8 ans d'errance médicale, c'est énorme, donc tu perds 8 ans en moyenne. En plus, les femmes, ça touche plus les femmes que les hommes, mais ça touche plus des femmes qui ont 40-50 ans. Moi, je l'ai eu très jeune, c'est ce qui me sauve. J'ai un passé de sportif de haut niveau, c'est ce qui me sauve. Mais si on n'a jamais... La personne qui a cette maladie, si elle n'a jamais été sportive, et si elle a des enfants à charge, une vie familiale, tout ça, enfin, moi, voilà, j'étais seule, donc c'était plus simple et bien entourée, mais tout ça, c'est très complexe, et chaque individu est différent face à la douleur, et voilà. Mais en fait, il n'y a pas de remède, donc... Faut essayer de trouver des mécanismes pour ne pas y penser, pour pas penser à la douleur. Et moi, le mouvement me fait du bien, et c'est ce qui est préconisé de toute façon. Le mouvement fait du bien. Mais attention, c'est plutôt du. C'est pas, on va pas se mettre à faire un marathon. Hein. Le but, c'est de faire des choses tranquilles et adaptées. On appelle ça le sport adapté, le sport santé. Ça va être beaucoup plus mis en valeur dans les années à venir. Mais il manque, ça manque en fait ça, parce qu'on est encore dans des, avec des médecins qui n'y croient pas, donc en fait c'est très compliqué quoi.
Et alors par exemple quand tu parles de cette douleur, est-ce qu'il y a des, je sais pas si on peut dire des niveaux de maladie, est-ce que si certains sont plus atteints que d'autres, est-ce que tu as un degré d'avancement?
Alors, en fait, on peut aller moyennement bien et être avoir une crise. En fait, c'est plus cyclique. Il n'y a pas, par exemple, là, moi, l'hiver, c'est toujours j'hiberne parce que voilà, c'est trop froid. Et si j'attrape froid, bah, j'ai trop mal. Enfin, j'ai trop mal au crâne, j'ai trop mal au cou, j'ai trop de douleurs. J'ai toujours énormément de vêtements. Je dois avoir 4 couches aujourd'hui. En fait, et puis, enfin, dans mes voyages, j'ai vécu à l'étranger et j'étais mieux parce que la chaleur me faisait énormément de bien. L'humidité, le froid, c'est une catastrophe. Après, il y a aussi le fait d'être en pleine nature, ça fait énormément de bien. Mais dans notre environnement, par exemple, bah, faut s'asseoir dans notre travail, faut être devant un ordinateur, faut être avec des lumières artificielles, faut prendre les transports en commun. Mais tout ça, il y a de la clim. Enfin voilà, donc faut que je fasse attention à tout. Et en fait, les personnes qui sont atteintes, je pense elles s'adaptent, elles sont obligées de s'adapter parce que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué l'environnement. Voilà, si tu veux travailler, et encore, moi je travaille, mais il y a des personnes qui peuvent pas travailler, hein, bien sûr. Mais j'ai rencontré quand même pas mal de fibromyalgiques qui arrivaient à faire des choses. Mais il y a vraiment des personnes qui font rien du tout, quoi. Mais donc, en fait, on peut trouver son équilibre, quoi. Mais l'équilibre, il est très fragile et donc, faut faire hyper attention à plein de choses. Mais c'est inconscient maintenant. Je me dis, bon, bah, voilà, je vais faire. Et je compense par la marche. Je fais 1 heure de marche quasiment, enfin, normalement tous les jours. Bon, s'il pleut, s'il fait trop froid, ou il y a du mistral, je vais pas. Mais sinon, je compense énormément.
Et alors, tu parlais de froid, tu parlais de déplacement à l'étranger en particulier. Est-ce que pour compenser, peut-être en France, tu t'es installé dans le sud, du coup, pour avoir la chaleur avec toi?
Ouais, complètement. Bah ça, en fait, moi je suis normande, mais c'est pour ça que j'ai fait mon arrivée à Marseille et c'est la ville où je veux vivre parce que c'est bon. J'ai fait des voyages, donc après toutes ces douleurs et tout ça, je me suis préparée pour faire un tour du monde et donc je suis partie en 2012 faire un tour du monde et j'ai voyagé en Asie, en Océanie, dans les îles du Pacifique et j'étais mieux. Mais dès par exemple, je suis allée en Nouvelle-Zélande et là j'étais pas bien quoi. Enfin, j'ai pas du tout apprécié le voyage. Je croyais même que j'allais retourner à l'hôpital pour demander des médicaments parce que j'étais vraiment en crise quoi. Donc vraiment la chaleur fait du bien. Et passer un hiver en France, pour moi, c'est presque un exploit. À chaque fois, je me dis, c'est trop bien ce que j'ai réussi quand j'arrive à passer un hiver en France. Mais j'en ai passé, dans les 10 dernières années, j'en ai passé peu en France, quoi. Donc, voilà. C'est un peu, je redoute un peu ça, mais après, voilà, faut faire avec, quoi.
Mais je me pose la question parce que, par exemple, tu disais que les docteurs ne croient pas beaucoup à cette maladie. Et ma question, c'est est-ce que tu penses qu'on a les outils aujourd'hui pour détecter que ça fait mal, pour détecter la douleur et donc pour asseoir peut-être aussi une théorie ou
en tout cas... T'as raison de me poser la question parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est qu'en fait, on passe tous les examens, il n'y a jamais rien. Donc on va passer une radio, un IRM, tout ce que tu veux, des prises de sang, il n'y aura jamais rien. Donc en fait... voilà, il faut passer un certain nombre de choses, d'examens, et à la fin, on peut te dire peut-être que tu as la fibromyalgie, mais dire que tu as la fibromyalgie pour un médecin, c'est complexe aussi, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de... Enfin, moi, je me mets à leur place, hein. Il n'y a pas de remède, donc si on te classe, entre guillemets, fibromyalgique, je me mets à leur place, c'est compliqué. En plus, ce qu'il va nous dire, c'est de nous remettre au sport progressivement, et ça, on ne l'entend pas. Enfin, sincèrement, c'est difficile à entendre quand tu n'arrives à rien. Et quand tu as... C'est en plus, tu tombes, quand tu as... Plus t'as de douleur, plus tu tombes dans... Enfin, plus tu peux rien faire, plus tu fais moins de... Enfin, moins tu fais de choses, et du coup, plus t'es en dépression. Enfin, c'est un cercle infernal, quoi.
Ça doit être terrible. Alors du coup, si je peux me permettre, ça fait combien d'années que tu vis avec ça aujourd'hui?
Moi, vraiment dur, on va dire 25 ans. Enfin, donc j'en ai 36, donc 11 ans. Après, moi, j'ai trouvé, je pense, quand même un équilibre. Hein, voilà. Et le voyage m'a beaucoup aidée pour ça, puisque je suis partie en 2012. Et du coup, ça m'a... J'ai changé de vie. Donc, voilà. J'étais jeune, donc ça m'a permis de vraiment... ouais, de vraiment me dire... de vraiment changer de vie, je pouvais, enfin voilà, et je fais comme ça, quoi.
Et alors, comment ça se passe là, en ce moment, tu vois, j'ai la chance de te parler, est-ce que c'est cyclique parce que ça vient par période dans la journée, dans la semaine, dans l'année, c'est quoi le rythme des cycles?
Par exemple, quand j'ai fait le... C'est quand j'en fais trop, par exemple, faut que enfin, il y a plusieurs choses. Par exemple, dans ce voyage-là que j'ai fait le dernier, j'ai eu un énorme mal de crâne. Je suis allée dans un supermarché, je suis ressortie et là c'était horrible. Mais c'est la clim, les lumières artificielles, je pense, les néons. Enfin, je sais pas. En fait, je pense qu'on est hypersensible à tout. Enfin, pour ma part, je pense ça et j'ai beaucoup discuté, rencontré des personnes qui ont la fibromyalgie durant ce voyage et c'est assez souvent ce qu'on me dit. Donc moi, quand je marchais et que j'étais en pleine nature, ça allait. Mais quand il y a trop d'artifices, c'est complexe. Et après, c'est quoi tu peux me redire la question?
Oui, ma question, c'est... Si tu t'es dedans, c'est plus est-ce que c'est sur des cycles de quelques heures par jour? Est-ce que c'est X fois par semaine? Est-ce que, tu vois, c'est quoi le rythme des cycles? Parce que là, j'ai la chance de te parler. T'as pas l'air d'être en... Enfin, wow, sauf si je me trompe.
J'ai mal, mais si tu veux, j'ai l'habitude, donc quand ça se voit, et puis je suis pas en crise, donc ça c'est clair, moi je suis pas en crise tout le temps, et j'ai trouvé mon équilibre. Mais le matin, pour se lever par rapport à une personne normale, je vais mettre plus de temps, et puis j'ai déjà, j'ai mal partout, le haut du dos, puis il y a des jours où si j'attrape froid ici, ou si je fais un faux mouvement, ou en fait, ça dépend, quoi. T'as des matins où tu te lèves et tu dis purée, quoi, j'aimerais bien pas avoir cette maladie, parce que c'est galère, tu sais que tu vas rien faire, il y a des matins où je me lève, j'ai envie de vomir tellement j'ai mal au crâne, tellement j'ai mal dans la face, ma face des fois je la sens pas, mais là en ce moment mes mains je suis pas, ouais, j'ai mal aux mains tout le temps en permanence, vraiment beaucoup, j'ai pas de force dans les mains. Mais après le mal de dos, j'ai tellement l'habitude et je me suis remusclée beaucoup, mais il y a pas, en fait, ce qui est assez frustrant, c'est que on sait pas pourquoi on va avoir plus mal à un moment donné ou à un autre moment. Moi, je sais que par exemple au volant d'une voiture, il y a je crois un an et demi, non, maintenant 2 ans, pardon, je me suis chopé une, enfin j'ai eu une grosse crampe dans tout le dos et j'étais au volant de la voiture de mes parents et franchement, heureusement, il restait 5 minutes, je pouvais pas me mettre sur le bas-côté, mais c'était insupportable. Là, j'ai pris un médicament parce que moi, je veux plus prendre de médicaments, mais ça, tu sais pas pourquoi. Je pense j'ai fait un faux mouvement, t'attraper froid ou voilà. Et après moi j'ai des douleurs, par exemple les pieds, c'est constant, c'est quand j'ai de la tendinite chronique sous les pieds, bon c'est voilà, j'ai mal aux mains, au dos en permanence, la tête en permanence, en fait j'ai le crâne compressé en permanence, mais ça en fait tu t'accoutumes, ça fait 10 ans que j'ai ça, bon bah voilà, je suis habituée maintenant, je pense qu'à un moment donné ton corps il est habitué, enfin c'est horrible à dire, mais ton corps il est habitué et voilà. Et après moi je crée en marchant, je crée des endorphines, donc ça me fait du bien aussi. J'écoute beaucoup de musique pour penser à autre chose quand j'ai vraiment trop mal, mais je suis pas là à déchiffrer quel jour j'ai plus mal. Et je le faisais au début, mais franchement je suis plus dans des tests inconscients où je teste des choses et je me dis, ah là, j'ai réussi à faire ça, bon, ok. Mais là, par contre, j'ai eu mal, par exemple, le mal de crâne dans le supermarché, Ou même maintenant les transports en commun, j'ai énorme, même le prendre un train, hein, c'est compliqué. J'ai mal au crâne, j'ai trop froid. Enfin, je trouve les trains de la SNCF, ils sont hyper froids en hiver. Ben là, voilà quoi, tu redoutes le truc quoi. Mais faut essayer de pas redouter, et de pas s'auto-créer du stress. Le stress est très mauvais, donc si t'es stressé, les émotions aussi, essayer de gérer un peu ses émotions. Sans les oublier, mais si moi je suis quelqu'un de très émotif et très sensible, donc ça j'ai beaucoup inconsciemment travaillé dessus parce que je peux pas me permettre de me créer du stress en plus, parce que les douleurs, forcément tu vas en avoir plus si t'as du stress, si t'as des émotions négatives. Donc tout ça, en fait, j'essaie de me créer, m'auto-créer un truc assez positif. Je suis une nature positive, mais voilà, et en continuant à faire un peu de sport. C'est vrai, je rêverais de faire plein de choses en sport, hein, étant donné que j'étais sportive de haut niveau, mais voilà, j'ai aussi accepté énormément de choses. Et ça, c'est, je pense, très important, l'acceptation que les médecins ne savent pas vraiment, enfin, que les médecins peuvent pas grand-chose pour nous, accepter qu'on va changer de vie, qu'on va devoir changer de vie, et ça, c'est très dur. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à accepter que la maladie, elle est là, et voilà. Moi, dans ce dernier voyage, je pense que là, je suis passée à maximum d'acceptation, puisque là j'accepte le handicap quoi. J'accepte de dire que je suis handicapée, que j'ai une fibromyalgie à haute voix dans les médias, à tous les gens, mais il y a plein de gens qui me connaissaient et qui ont voyagé avec moi et qui savaient pas qui ne connaissaient pas ma maladie, et voilà. Donc c'est énormément de choses comme ça. C'est un gros travail, c'est inconscient en fait. Je l'ai pas fait en me disant, en me coachant, en me disant, faut faire ci, ça, ça. Voilà, c'est venu naturellement, voilà, comme ça.
Et alors, comment tu prépares, du coup, ce voyage, justement, qui dure un peu plus d'un an? Comment tu t'y prends? Est-ce que c'est du matériel? Est-ce que c'est de la logistique d'hébergement? Voilà, c'est quoi les étapes que tu as pu suivre pour préparer ce voyage?
Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui prépare trop à l'avance. Voilà, parce que je sais qu'il va y avoir des rencontres, que ça va jamais se, enfin, ça va, le voyage est jamais comme tu l'as prévu. Donc, déjà, je croyais qu'il y avait 4800 kilomètres, j'en fais 6700. Bon, en gros, j'ai fait 5 kilomètres à peu près chaque jour parce que il y a toujours des déviations. En gros, j'avais prévu de prendre certaines routes et puis je me suis aperçue que, bah, c'était hyper dangereux, que les pistes cyclables, il y en avait pas tant que ça en Europe. Donc, j'étais obligée de prendre soit des routes, soit des micro-routes, mais des fois je pouvais pas prendre les GR avec la poussette. Donc voilà, il y a plein de choses que tu anticipes pas vraiment, mais moi ça m'éclate, ça. Donc enfin, c'est une partie de l'inconnu que j'adore. Mais après, j'avais quand même prévu les étapes à peu près en amont. Et puis, on va dire que je me prenais... Enfin, au tout début, je me suis préparée dans le sens où... bon, déjà, je marchais 1 heure par jour. Et là, je marchais 15 kilomètres par jour. Mais franchement, j'ai pas traîné la... Enfin, j'ai pas poussé la poussette. Je l'avais pas. Donc voilà, je me suis pas réellement entraînée. Et pour... ouais, en fait, je suis partie, j'avais bien trop de kilos, par exemple. Enfin, mais ça, c'était sûr. Je suis partie de chez mes parents m'ont donné plein de choses, j'ai pas su dire non. Voilà, enfin, tu pars avec plein de bouffe et c'était ridicule. Donc, j'ai vite vidé ça parce que j'étais, la poussette à vide pèse 15 kilos, donc j'étais, je pense, à 30. Bon, j'ai réussi à diminuer à 25, mais j'avais une tente, j'avais un réchaud, j'avais tout dedans, des vêtements. En fait, c'était mon sac à dos. Moi, je peux pas porter sur du long terme. J'aurais rêvé de faire un GR, enfin de le faire avec un sac à dos, mais c'est impossible. J'essayais de faire des treks avec un sac à dos. C'est dur. Déjà, pour une personne qui a pas mal au dos, c'est dur. Mais alors, pour moi, c'est juste, je pose le sac et je le reprends 3 heures après, quoi. Et je monte en haut et je redescends. Enfin, mes treks, c'était ça. Donc là, vraiment, je voyais pas faire ça. Et d'ailleurs, c'est une rencontre que j'ai fait en Uruguay. Un Américain, il venait de faire, en fait, le tour d'Amérique du Sud avec une poussette et un chien. Et là, je me suis dit, l'idée de la poussette, c'est trop bien, quoi. Et l'idée m'est venue de là, de faire quelque chose pour la fibromyalgie avec une poussette qui représente quelque part le poids du handicap, qui est ma visibilité aussi. Donc, j'ai appelé ma poussette Huguette, voilà. Je l'ai nommée. Et, okay. Et voilà, enfin, on y allait toutes les deux et je pouvais pas revenir sans Huguette, quoi. Et puis c'était, je lui parlais, au bout d'un moment, on parle, quoi. On parle à des objets, mais ça, c'est le voyage. Mais non, c'était, je mettais tout dans cette poussette, en fait. Mais en essayant de pas être trop surchargée, parce que très vite, comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement très vite, je me suis aperçue que la Bretagne, j'avais pas imaginé une seule seconde qu'il y avait autant de côtes, quoi. Horrible. Horrible.
Attends, et tu prends combien de roues et de roulements de rechange typiquement sur un
truc comme ça ? Non, alors je ne sais pas. Alors, faut savoir que là, le côté technique, c'est mes parents qui géraient, mon père un peu plus. Mes parents ont acheté une autre poussette, donc du coup, on avait, parce qu'il faut savoir que j'ai cassé le guidon deux fois de Huguette. Elle est tombée, je l'ai fait chuter. Enfin, c'est pas vraiment de ma faute, mais j'ai mis le frein. Il y a deux freins sur le, comment on peut dire, un frein à main. Et les freins ont pas tenu dans une côte et elle est redescendue et elle a chuté terriblement. J'avais trop peur qu'elle soit cassée en deux. Mais non. Et en fait, l'avantage de cette poussette, elle était vraiment costaud. Donc, le guidon qui a cassé. Puis les pneus, j'avais des pneus vraiment de très bonne qualité avec du fer à l'intérieur. Donc, ou de l'aluminium, je suis pas très très technique, mais donc sur le côté comme ça, matériel, il n'y avait pas grand chose à faire. Et puis quand j'étais en Espagne, ou même je rencontrais beaucoup de gens, donc si j'avais eu besoin d'aide, il n'y avait pas de souci. Et puis en Espagne, il y a énormément de, enfin, ils sont très bons, ils m'ont gonflé les pneus, ils m'ont trouvé, j'ai percé un pneu qui est soi-disant incassable, je l'ai percé, il a trouvé la panne directement, et c'est des cyclistes, hein, les Espagnols, donc non, j'ai pas eu, ça va en panne, et en matériel, j'avais pas prévu beaucoup.
Tu recommanderais la poussette pour des jeunes parents qui ont des enfants?
Oui, mais elle a pas d'amortisseur. Enfin, après, en fait, faut savoir que c'est pas vraiment une poussette. C'est normalement quelque chose qu'on met derrière un vélo. Et c'est une remorque à vélo où on met un enfant dedans. Donc, ça sert quand même. Enfin, sincèrement, les vibrations pour les enfants derrière, on se prend toutes les vibrations dans le guidon. Donc, pour l'enfant, je suis pas sûre. Mais niveau qualité et rudesse, oui, on peut. C'est du grand. C'est costaud, hein. C'est costaud.
Tu loges chez qui, typiquement, quand tu fais ce genre de journée, que tu as passé la journée à marcher? Est-ce que c'est toqué chez l'habitant? Est-ce que c'est les voisins de voisins? Je ne sais pas, tous les Bretons se connaissent, donc ils interpellent leurs voisins à 30 km plus loin pour... Comment ça se passe?
Ben, en fait, ça dépend. Franchement, au début, en France, comme j'étais pas mal suivie, on m'a pas mal aidée, mais aussi, moi, à la fin de la journée, j'étais très fatiguée. Donc, quand tu as fait 35 km, et des fois, c'était même plus, avec une poussette qui fait 25 kg, franchement, tu voudrais participer et être avec le genre le soir, mais je pouvais pas, je le faisais, mais si j'avais voulu, j'aurais pu être tous les soirs chez des gens. Donc sinon, je faisais du camping ou du camping sauvage, mais c'était pas facile, le camping sauvage avec la poussette, parce que la poussette, elle est vite encombrante et je peux pas prendre des petits sentiers. Enfin, si j'avais eu juste un sac à dos, j'aurais pu faire des bivouacs, ça aurait été facile, mais là, c'était pas facile. Donc, je m'accordais un peu de confort aussi, parce que sincèrement, quand tu sais, c'est un défi sportif quand même, hein, on a peut-être qu'on l'oublie, mais pour moi c'est très sport quand même, hein, 35 km. Sachant que c'est sur du goudron, donc c'est pas 30, j'aurais pas fait autant par exemple avec un sac à dos et en trek, quoi, mais d'ailleurs j'aurais pas fait avec un sac à dos, mais on n'a pas le même rythme, mais oui, donc ça pouvait être ça, et puis même des nuits d'hôtel, voilà. Enfin, j'avais le budget aussi pour aussi me reposer. Mais j'ai été hyper étonnée de toute cette générosité, quoi. Si j'avais voulu, j'aurais pu être tous les soirs chez des gens, et c'est incroyable, parce qu'en effet, comme tu le dis, t'en as un qui sait que tu es là, puis demain, la personne, elle a un ami qui est dans cette ville-là, et voilà. Mais ouais, c'était, enfin, moi, ça m'a hyper touchée, tout ça.
Qu'est-ce que tu te racontes dans la journée? Ça, tu marches quand même, tu m'as dit 35 bornes. Au bout de 6-7 jours, qu'est-ce qui reste comme sujet pour le restant de l'année, quoi?
Ah bah t'as le temps de réfléchir, franchement. Mais après, tu prends du recul sur les choses. Je réfléchissais aussi à comment je peux mettre en œuvre, comment je peux médiatiser la chose. Parce que je faisais tout de A à Z seule, à part la mécanique. Sincèrement, le reste, il faut que je prépare tout. Donc la médiatisation, moi, j'avais pas de personne pour m'aider. Si je devais aller prendre un rendez-vous chez le kiné, je devais prendre rendez-vous. Enfin, je faisais tout toute seule. Donc voilà. Mais donc je faisais mes petites choses, mes petits posts aussi. Et puis je pensais beaucoup, mais j'adore penser en fait. On est déconnecté, puis des fois t'as un oiseau qui passe, et puis tu regardes l'oiseau, et voilà. Enfin, tu t'émerveilles de tout ce que tu vois. Donc je sais pas concrètement à quoi je pensais, mais ouais. Alors après, par contre, faut faire attention parce que des fois, oui, tu vas peut-être un peu trop loin dans ce que tu médites, parce que c'est un peu de la méditation, hein, la marche, mais je pense que tu penses à tout, à rien, tu mets de la musique, et puis des fois, tu as une route dangereuse, donc voilà, des fois, tu as une rencontre, donc tu fais attention, tu parles avec les gens, puis ta journée, elle était pourrie, et puis tu as eu de la pluie toute la journée, puis t'as une éclaircie, un beau coucher de soleil, des gens que tu rencontres qui t'offrent un café, enfin voilà, et même la journée, la pire journée où t'avais peut-être des pensées négatives à te dire merde quoi, en fait t'es content parce que il se passe toujours un truc, c'est ça la route et c'est ça que j'apprécie dans la route. Mais ouais, je pense que faut être prêt quand même, si tu pars comme ça seul à marcher, faut être prêt à un peu s'auto-évaluer, à méditer, à être seul. C'est particulier quoi, mais j'ai l'habitude, donc je sais pas ce qui se passe, c'est difficile à expliquer en fait. Je sais pas, mais c'est ouais. Mais je pense, quoi, je pense, je repense, je refais le monde. Enfin, c'est ça, tu vois.
Qu'est-ce qu'ils en pensent d'ailleurs, tes proches, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont pensé à l'époque quand tu leur as annoncé que tu voulais faire ça, et quel est leur ressenti, du coup, aujourd'hui?
Alors, pour une fois, ils étaient tous OK. J'ai même été hyper étonnée parce que quand je suis partie, donc j'ai fait deux gros voyages avant. Et quand je suis partie en 2012, c'était compliqué parce que pour mes parents, c'était hyper compliqué parce que ils m'avaient vue dans des états compliqués et se dire « bon, elle va partir seule ». Enfin, je suis pas partie seule, je suis partie avec deux personnes. C'était d'ailleurs un peu une condition, même pour moi, ça me rassurait. Donc là, ils avaient peur, mon entourage avait peur, mais là, pas du tout mon entourage, mes potes, ils étaient là, c'est trop cool, parce qu'ils savaient concrètement que j'allais le faire, parce que quand je dis quelque chose, je le fais, donc ils ont dit, c'est une super idée, parce que eux-mêmes, la fibromyalgie, personne connaît ça, mais quand tu parles aux gens autour de toi, généralement, t'as une personne... Qui a la maladie, si tu fais attention, c'est juste que les personnes, moi c'est combien de fois ça m'est arrivé où je commence à en parler et on me dit j'ai cette personne là qui l'a, j'ai cette personne là qui l'a, et sur mon trajet c'était énorme le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui avaient la fibromyalgie ou qui connaissaient quelqu'un qui avait la fibromyalgie, c'est fou quoi, mais en même temps ça touche énormément de gens, et sans compter ceux qui ne sont pas diagnostiqués à l'heure actuelle, mais j'ai eu des super encouragements, ce que j'avais pas forcément eu auparavant pour ce projet, donc voilà.
Et tu parles beaucoup d'impact médiatique, c'était quoi l'objectif d'impact médiatique que tu avais avant, et du coup est-ce que ça a fonctionné?
Alors, pour être très honnête, je pensais faire la chose, de faire le projet et de pas être du tout être médiatisé, de le faire un peu plus, on va dire... pour moi, voilà, pour réfléchir et tout ça. Et puis finalement, très vite, j'ai été médiatisée sur France 3, sur des médias, Simone Média, tout ça. Et moi, je fais tout toute seule. Alors je m'étais dit, mais ça va pas marcher. Et finalement, j'étais très suivie aussi. Les gens. Donc en fait, ça m'a hyper motivée. Je me suis dit, je vais pas le faire. Je vais pas le faire genre. tranquille, route, c'est tout. Non, je vais le faire vraiment, je vais me donner à fond. Et c'est pour ça que je me suis donné à fond. Et bon, bah, j'ai réussi à faire quelques beaux médias. Donc, je suis satisfaite parce que je suis arrivée, c'était le Covid. Donc, je suis hyper contente. Après, le but ultime, c'est de faire reconnaître la maladie réellement officiellement, puisqu'elle n'est pas reconnue officiellement par la Sécurité sociale. C'est noté fibromyalgie sur Internet, sur le site de la Sécurité sociale. Mais concrètement, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui, en fait, d'un département ou un autre, la maladie va pas forcément être reconnue. Donc, si tu as un arrêt de travail, si tu demandes un peu des aides, eh ben, tu as rien parce que la fibromyalgie, c'est dans la tête et basta, quoi. Et moi, c'est ce que j'ai compris très vite, et c'était il y a 10 ans, et c'est toujours pareil. C'est pas logique qu'on puisse pas mettre sur un arrêt de travail fibromyalgie, qu'on soit obligé de mentir et dire dépression. Les médecins, d'ailleurs, le font, ils écrivent dépression ou troubles musculo-squelettiques, mais et ça passe à la rigueur. Mais quand t'écris fibromyalgie dessus, en fait, c'est pas assez considéré. Or, avoir des douleurs chroniques en permanence. Moi, je rêvais de travailler, mais je pouvais pas, et j'ai pas compris pourquoi la sécurité sociale voulait pas de cet arrêt. Et c'est encore la même chose, et ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'en fait, d'un département à un autre, c'est différent. Là, il n'y a pas de politique nationale, et les sécurités sociales sont différentes d'un département à un département. Et j'en ai vraiment voulu, j'adore la France, mais j'en ai vraiment voulu à mon pays de me dire, purée, j'ai une maladie, et en fait, personne veut m'entendre. La sécurité sociale veut pas entendre que j'ai ça. Moi, j'ai jamais rien demandé à personne. Là, je suis malade une fois dans ma vie. Je peux pas avoir d'arrêt de travail. Enfin, je pleurais, quoi. C'était horrible. Je veux dire, je fais pas ça pour, enfin, voilà, moi, je veux travailler. Et en fait, c'est encore le cas maintenant. On n'est pas reconnu non plus en ALD. Enfin, après, c'est des techniques, L'ALD, par exemple, c'est assez technique, mais comme terme. Mais en fait, on n'est pas dans les chiffres du handicap. On n'est pas dans. On est un peu inexistant parce que il n'y a pas de. Si on passait un IRM et on nous disait t'as la fibromyalgie, ça serait génial, ça serait une hyper avancée. Mais il n'y a pas ça. Après, il y a des recherches, mais c'est plus sur l'activité physique adaptée. Bon, il y a des avancées, mais il faut des financements, il faut que ça avance. Et moi, mon but, c'était ça, c'est d'en parler et de faire reconnaître à terme. Mais sincèrement, bon, même si j'avais du monde derrière moi, c'était plus pour sensibiliser et parler de ça. Parce que c'est un travail... Enfin, moi, je pense que même si je continuais et que j'ai... C'est un travail de fou, quoi. C'est un travail de fou. De faire reconnaître que quelque chose.
Tu parlais à l'instant des arrêts de maladie, des arrêts de travail qui sont refusés pour la fibromyalgie. Moi, je trouve que c'est tout aussi scandaleux qu'on puisse accorder des arrêts de travail pour d'autres broutilles qui ne sont pas de vrais arrêts, tu vois. Donc, c'est d'autant plus vexant, je pense, de t'entendre que celui-là n'est pas accordé pour une maladie qui t'empêche de pouvoir te comporter au naturel. Je veux pas créer de polémique là-dessus, mais tu vois, je trouve qu'il on accorde trop facilement des arrêts de travail pour qu'on te refuse là-dessus.
Bah, en fait, complètement, dans le sens où pourquoi une dépression serait plus, aurait plus de valeur, parce que c'est ça, au fond, aurait plus de valeur qu'une fibromyalgie. Je vois pas je comprends pas, en fait. Et il y a, enfin, personne comprend. Je veux dire, et puis de dire, enfin, et que les médecins te disent, en gros, on va mettre dépression pour que ça passe mieux. Enfin, il y a un problème, hein, à un moment donné, faut se réveiller, quoi. Donc, je peux pas changer le monde à moi toute seule, mais au moins j'en ai parlé dans les médias et voilà. Enfin, je suis assez contente de ça et j'ai sensibilisé. Il y a plus de gens qui connaissent la maladie, mais il faut que ça continue. Mais il faut, c'est difficile parce que quand on a cette maladie, on est un peu seul, on a mal et on n'a pas. Enfin, c'est un travail énorme de faire tout ça, enfin, cette action, par exemple, elle m'a pris du temps en amont, elle m'a pris du temps personnel. Enfin, je me suis vraiment mis à fond dessus et j'ai quelques résultats, mais pas. Enfin, je vais pas rencontrer le ministre de la Santé. Ça aurait été vraiment chouette de rencontrer le ministre de la Santé, par exemple. Mais non. Mais bon, il y a eu un rapport de l'INSERM qui a été fait en 2020 et qui a statué. Dans ce rapport, donc, il statue qu'il faut faire du sport adapté, qu'il va y avoir des programmes pour les fibromyalgiques, parce que concrètement, il n'y a pas programmes, à part des programmes de balnéo, à la rigueur, mais il n'y a pas de programme vraiment pour les fibros, pour le sport adapté. Or, c'est ce qui est préconisé dans le rapport de l'INSERM de cette année, et enfin de l'année dernière, du coup, pardon. Et ben, j'espère qu'il y aura les moyens pour ça. Par contre, la reconnaissance officielle, ça, c'est complètement, ils l'ont complètement occulté, voilà. Donc comme ça, voilà. Et c'est ça que les associations, c'est ça que tout le monde demande en fait. On est tous là, juste. Que on puisse utiliser le mot fibromyalgie. Enfin, à un moment donné, moi, quand j'utilise le mot fibromyalgie, que je vais voir un médecin, même ça m'est encore arrivé récemment. Enfin, ils sont là, enfin bon, c'est pas une maladie. Enfin, vous avez rien, quoi. Enfin, c'est dans votre tête, quoi. Bon, bah voilà. Enfin, à un moment donné, je tiens plus compte. Mais ce médecin, je vais jamais aller le revoir. Clairement, à un moment donné, moi, je le prends comme un manque de respect. Enfin, j'ai pas. Enfin, j'ai pas à me justifier, j'ai plus à me justifier. Voilà, j'ai cette maladie. Peut-être que dans les fibromyalgies, il y a une fibromyalgie X, Y, Z. On sait pas à l'heure actuelle. On est tous mis dans le même panier, ça aussi, c'est vrai. Et on a tous peut-être des stades plus ou moins différents. Mais à un moment donné, c'est vrai que ça serait intéressant que ça avance. Et c'est par des petites actions, peut-être d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui font d'autres projets, donc peut-être que ça viendra. Mais voilà, c'est compliqué.
Qu'est-ce que tu fais du coup comme métier avec ce type de maladie aujourd'hui ?
Alors, moi j'étais auditrice comptable et bah, je suis réceptionniste maintenant dans les campings et les auberges de jeunesse. Donc je suis plutôt saisonnière.
Voilà. Ok.
Ça me permet d'être assise debout, de gérer, parce que moi je peux pas être trop. Moi être assise devant un PC, c'est une catastrophe. Pianoter, nanana, c'est voilà, ou tenir mon téléphone, c'est compliqué. Mais du coup, je peux m'adapter. Par contre, c'est vrai que ça demande énormément d'attention et quand t'as des douleurs chroniques, la concentration c'est assez compliqué. Mais j'ai pas à porter. Je suis autonome, quoi. Je me débrouille. On s'adapte. Même si j'ai des charges à porter, je m'adapte. Mais voilà, la réception, c'est bien.
Bon, et tu comptes repartir ? C'est quoi les prochains voyages ?
Alors là, je compte écrire un livre déjà. Voilà, okay. Je vais écrire un livre sur tout ça. C'est 10 années, voire plus, passées sur la route et avec la maladie. Mais ouais, j'aimerais bien traverser un désert. Ça, j'aimerais bien. Cette année, je vais essayer de faire ça. Donc, voilà. Mais après, bon, comme je vais travailler, j'ai aussi envie d'avoir un chez moi, une vie normale. Enfin, quand je dis normale, c'est compliqué aussi de vivre dans une vie. Pour moi, c'est presque plus dur de vivre dans une vie statique, normale, que de vivre. Pour moi, c'est un énorme challenge, hein. Franchement, c'est plus facile pour moi d'être sur la route et de marcher tous les jours, et voilà. Même si c'est un défi physique et tout, que d'être dans une vie statique, c'est quand je dis statique, c'est donc tu travailles, métro, boulot, dodo, et même si tu fais des week-ends et tout ça, c'est très complexe pour moi de gérer ça. Mais voilà, c'est le challenge. Et puis, qu'est-ce que j'avais pensé ? Ouais, non, je vais peut-être traverser un désert, ouais, et profiter des calanques, profiter voilà. Mais à terme, ça serait m'acheter un van et d'ici un ou deux ans, et encore à terme d'avoir mon propre chez moi, parce que ça, pendant le Covid, j'ai vraiment dégusté, enfin, pas dégusté, mais j'ai vraiment, là, ça m'a manqué, en fait. Je suis rentrée chez mes parents, il y a 36 ans, rentrée chez ses parents, même s'ils sont adorables, que je les adore, voilà, quoi, on n'a plus les mêmes habitudes, j'ai pas d'intimité, eux non, enfin, eux aussi, c'est pareil, donc là, d'avoir un chez moi, et moi, mon but, ce serait d'avoir une tiny house, avec un terrain, un jardin.
Ah, énorme!
Mais dans longtemps, parce que t'achètes pas ça comme ça, quoi, voilà, et encore, mon but le plus ultime, ça serait d'avoir mon bed and breakfast, quoi, enfin, ou mon auberge, tu vois, avec des tiny ou des logements un peu différents, voilà, enfin.
Attends, pour ceux qui n'auront peut-être pas compris, la tiny house, c'est quoi, on est d'accord, c'est la rénovation d'un conteneur ou d'un petit format comme ça?
Oui, c'est soit en bois, en fait, c'est des micro-maisons, c'est un peu comme un mobile home, mais soit en bois, ou alors tu peux les conteneurs quand même. Enfin, moi, je suis pas sur ce mode-là, mais voilà, c'est des petites maisons okay. en bois, un peu comme un, mais avec des roues. Mais après, moi, je le poserai. Enfin, ça sera pas pour le bouger. C'est vraiment pour avoir quelque chose. Hein. C'est genre un 20 mètres carrés, mais t'as haut de plafond et du coup, ouais. Enfin, c'est vraiment une tiny house, c'est petite maison, donc voilà. Mais c'est comme un mobilhome au final, mais en un petit peu plus joli, en bois, enfin voilà, pour expliquer aux gens. Mais voilà, et puis d'avoir un terrain. Enfin, moi, je viens de la campagne, donc j'adore la ville parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais là, par exemple, avec le Covid, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais j'aimerais bien... C'est difficile pour moi parce que j'aime bien les deux, mais bon, j'aime bien la nature. Et ça me fait plus de bien, la nature, que le bruit et la ville, quoi. Donc, à terme, je sais que je ferai comme mes parents. Hein. Je rentrerai, j'aurai une maison à la campagne, mais bon, pas une maison. Je préférerais une tiny house. Voilà, un petit truc, quoi.
Bon, bah, c'est top. si tu devais repartir, du coup, est-ce que tu repars sur un format solo, comme tu l'as vécu là depuis un an, ou est-ce que tu repars plutôt en groupe? Voilà, c'est quoi la mentalité aujourd'hui de ton voyage?
Alors, sincèrement, j'ai fait beaucoup de voyages solo, mais en fait, quand t'es solo, t'es jamais tellement solo. Enfin, les voyages... Là, je suis plus dans une optique de pas faire un voyage, donc pour une action, pour une cause, pardon, oui, c'est ça que je voulais dire, pour une cause. Donc ça serait un voyage où voilà, je prends les transports en commun locaux, j'aimerais bien ouais, enfin, il y a plein de pays que j'aimerais bien faire, ou plein de zones que j'ai pas faites, comme j'avais fait avant. Voilà, je prenais les transports en commun et je m'éclatais comme ça, et je rencontrais du monde, et je peux le faire seul comme accompagné, mais c'est toujours difficile de voyager avec des gens qui ont la... Enfin, je voyage jamais tellement seul, mais c'est difficile d'avoir les mêmes créneaux, de partir avec les personnes. Et puis j'aime bien être seule parce que tu fais ce que tu veux, j'aime bien cette liberté-là, mais si quelqu'un est motivé pour faire l'Afrique, par exemple, quand je serai riche, voilà, moi, j'aimerais de faire l'Afrique, mais ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Enfin, l'Afrique, en fait, de l'Égypte, en gros, jusqu'à l'Afrique du Sud, et j'aimerais trop, mais pas seul, par contre, celui-là, parce que je me sentirais pas à l'aise. J'ai fait les îles seule, et déjà, parfois, c'était un petit peu ennuyant. Donc voilà, il y a des zones où je veux pas faire seule, mais je pourrais faire l'Amérique centrale seule ou à plusieurs, enfin ça me dérange pas. Mais c'est au bout d'un moment, il faut de toute façon, quand on voyage à plusieurs, il faut que chacun fasse ses trucs à lui, parce que on est tous différents. Donc c'est voyager à plusieurs, ça peut être vite vite long des fois pour certaines personnes. Moi, je m'adapte énormément. Moi, j'ai voyagé avec des personnes de tout âge et je me suis éclatée avec des personnes qui avaient 60 ans, et voilà, donc, et avec des jeunes de 18 ans, donc voilà. Mais c'est quand même particulier. Donc, j'ai des destinations plus que est-ce que je le fais seul, est-ce que je le fais avec quelqu'un, c'est pas trop ce que je. Enfin, voilà.
Non, mais je pense que je suis d'accord avec toi, c'est deux ambiances différentes quand tu voyages tout seul, quand tu voyages à plusieurs. Et pour avoir un peu aussi à titre perso fait les deux, c'est vrai que c'est pas du tout la même approche. Les deux sont plaisantes, mais elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, comme tu viens de le mentionner. Est-ce que t'en tires une leçon particulière de ce voyage? Ça m'intéresse. Tu vois, tu passes 12 mois sur la route, 14 presque, si on compte les mois de pause. Qu'est-ce que t'en tires comme conclusion sur toi, ou tout court d'ailleurs?
Ben, je pense que vraiment, j'ai été hyper touchée par la générosité que j'avais de tous les pays que j'ai traversés. Ça, j'avais vraiment pas idée. J'avais vu ça dans d'autres pays, en Asie, et je me disais, mais franchement, la France, les Français, je les trouve vraiment pessimistes. Je pense pas qu'ils soient aussi généreux. Ben, en fait, je me suis vraiment trompée. Enfin, ça m'a vraiment fait une bonne leçon, quoi. Enfin, ça m'a vraiment donné, pardon, une bonne leçon, dans le sens où, ouais, mais en France, les gens étaient hyper généreux, hyper touchants, ils m'aidaient, enfin... Et ça m'a beaucoup touchée, et je m'y attendais pas du tout. Après, moi, sur moi, ben, je pense que ça m'a fait passer un cap d'acceptation, comme je disais un peu tout à l'heure, d'acceptation du handicap, de dire, bah, tout haut, oui, j'ai une fibromyalgie, de l'assumer. Maintenant, je dis à mes employeurs, ben, j'ai la fibromyalgie. Avant, j'aurais jamais rien dit. Ou je dis aux gens, j'ai cette maladie. Je peux le dire comme ne pas le dire, mais donc, c'est assez énorme parce que c'est un cap au-dessus, quoi. Moi, je le cachais au fond, donc là, j'accepte, je le dis, et puis voilà. Enfin, donc c'est voilà. Et après, bah, je me dis, bah, j'ai aimé. Je pense que je me dis aussi, j'ai aimé cette aventure avec la poussette, mais je pense que c'est la première et la dernière fois parce que c'était quand même très dur. Mais je regrette pas une seconde. C'est un voyage hyper intense. Je pense que quand je vais décrire, je vais vraiment m'en rendre compte. Là, des fois, j'ai des bribes qui me reviennent, mais c'était hyper intense. Là, je vais pouvoir le digérer. Donc, j'aurai cette question. Peut-être que dans quelques temps, je pourrai plus y répondre, parce qu'à l'heure actuelle, c'est toujours après coup, quand on écrit des choses, qu'on revoit. Et d'ailleurs, la marche fait ça. Enfin, quand tu as une rencontre, tu rencontres quelqu'un. En fait, après, là, tu penses à cette rencontre, tu te dis, mais pourquoi il était là sur mon chemin? Pourquoi? C'est trop bizarre. Enfin, et tu te dis, mais il n'y a pas de hasard. Et pourquoi? Et tu te poses 50 000 questions. Et c'est ça que j'aime bien. Et c'est à l'écrire, je vais encore, je pense, avancer sur, on va dire, mon chemin de vie. Et voilà, quoi. Donc c'est génial.
Et alors, si tu devais conseiller quelqu'un qui veut se lancer dans un programme équivalent de défense, un autre sujet peut-être, que ce soit une maladie ou autre chose, qui fait un qui se met ce défi-là aussi, il ou elle-même, c'est quoi selon toi les étapes qu'elle devrait suivre? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller d'ailleurs comme chose à faire, ou au contraire bêtise à ne pas refaire?
Ben, il faut qu'il soit préparé un minimum, mais après, faut vraiment laisser la place aussi à l'imprévu. Après, faut pas y aller non plus tout à l'arrache, mais je pense que avec le recul, de toute façon, enfin, moi, je vois mes premiers voyages, j'étais là, je regardais tout sur Internet, tout ce que je pouvais faire. Enfin, c'était limite, je faisais une to-do list, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais faire, et en fait, ça se passe pas comme ça, le voyage. Donc, il faut laisser vraiment prendre, et puis surtout prendre son temps, quoi. Je pense que prendre son temps, c'est important. Moi, là, je savais que je partais, je m'étais 17 mois, mais au fond, ça m'a pris un an et deux mois, enfin, ça m'a pris un an de marche au total. Mais... Donc, se laisser le temps. Et surtout, si on fait quelque chose pour une cause, je pense, enfin, alors pour la maladie par exemple, pour ma part, j'ai parfois subi des gens super défaitistes qui me disent, mais tu n'arriveras à rien, enfin, ça sert à rien ce que tu fais. Et ça, en fait, faut vraiment pas écouter ces gens. Et au contraire, faut vraiment se dire, même encore maintenant, ça mine quand on me dit « Ouais, ça sert à rien ce que tu fais » et tout, mais non, en fait, ça sert toujours. Si ça sert pour une personne, ça servira pour... Enfin, ça servira. Et puis toi, ça, personnellement, ça te sert. Enfin, tout ce que j'ai fait, je pense que ça m'a servi, mais c'était pas le but. Le but, c'était aussi que ça serve aux autres, et je pense que ça a servi, et je me rends même pas compte. Il y a des choses, des fois, on m'envoie des messages maintenant, et c'est hyper touchant, et donc voilà, je sais... En fait, on s'en rend pas bien compte, mais il faut jamais rien lâcher au fond, parce que ce qu'il y a demain, ce qui peut arriver demain, ce qui peut arriver à la fin, et même quand vous allez repenser, enfin, c'est énorme, et donc faut pas se laisser envahir par les peurs des autres et par les personnes négatives qui sont autour de
nous. Je t'ai perdu.
Ah mince. J'en étais où?
Là, tu m'entends toujours, c'est bon?
Ah.
Ok, parfait.
Oui, c'est bon.
Excuse-moi, j'ai perdu 10 secondes, un truc comme ça. Donc, je veux bien que tu recommences. Tu disais, il faut surtout pas lâcher parce que.
Faut surtout pas lâcher parce que en fait, il y aura toujours des personnes négatives, toujours des personnes qui vont vous dire mais ça sert à rien, ce que tu fais, c'est enfin, surtout quand tu le fais pour une cause et en fait, ça sert forcément à des personnes. Et moi, je pense que là, après coup, je me rends compte de l'étendue des choses et il y a plein de gens qui me remercient tous les jours et je suis hyper impressionnée. J'ai pas eu l'impression de faire un truc de malade, même si oui avec la maladie c'est peut-être un peu fou, mais je me suis éclatée donc voilà, si c'était à refaire, j'ai envie de dire je le referais, sauf pas avec une poussette, mais faut vraiment rien lâcher. Et si vous voulez médiatiser quelque chose, faut pas lâcher non plus, parce que moi, si j'arrive à faire Combini, c'est parce que pendant un an, j'ai envoyé des messages quasiment tous les 15 jours, et qu'à un moment donné, on arrive, c'est le Covid, et là, j'hallucine, quoi. Elle me dit, si t'es là dans 2 jours, on te prend, quoi. Et j'arrivais en France, donc c'était parfait. Enfin, il y a des timings comme ça, où à un moment donné, tout se coordonne, et tout est aligné, et c'est génial, et t'arrives l'objectif que tu t'étais fixé, tu y arrives, mais ça prend du temps et faut pas se décourager. Voilà, à peu près
tout ce que... Comment on fait pour te suivre du coup, Violette?
Alors, on peut me suivre sur Facebook, c'est Violette Duval Born to Explore, ou sur Instagram, violette.duval, ou on peut directement aller sur mon site internet, Violette. Je sais plus si il y a un point violette.duval. Non, violetteduval.com, pardon. Donc on peut me suivre sur violetteduval.com et il y a les sites Facebook et Instagram dessus.
Bon, bah top. Et dernière question que j'aime bien poser, savoir un peu comment ça se profite pour toi aussi finalement. Si jamais on a l'occasion et la technologie pour te faire discuter avec Violette Duval qui a 11 ans, qui n'a pas encore eu cette maladie, qu'est-ce que tu lui dirais?
Waouh, difficile. Parce qu'à 11 ans, j'avais déjà un petit peu la maladie.
Mettons 10 ans, mais entre guillemets, juste avant peut-être la découverte de cette maladie.
Eh ben, ouais, non, lâche rien. Et puis avance et surtout réalise tes rêves, quoi. Mais bon, j'ai réalisé, donc d'un sens, je suis contente de là où j'en suis, mais ouais, c'est. C'est en fait, c'est ce qui est assez fou, et je pense que ça peut. Enfin, ce qui est assez fou, c'est que au final, j'ai une vie qui est tout le monde rêve de cette vie-là, quoi. Et c'est ça qui est fou. Et même moi, j'aurais jamais eu cette. Si j'avais pas eu la maladie, j'aurais jamais fait tout ça, quoi. Donc, c'est assez fou, quoi. C'est même dingue, et je dis presque merci à la maladie, quoi. Donc, faut pas avoir peur de cette maladie. Et au contraire, faut essayer de vivre avec et de l'accepter peut-être plus rapidement. Parce que finalement, ça m'a pris du temps et j'ai peut-être un peu perdu du temps, même si au fond, j'arrive à faire beaucoup de choses. Mais ouais, rien n'est impossible. Et même si on te dit, un médecin te dit, mais non, t'arriveras pas à marcher, tu feras rien, tu pourras rien faire, tu seras en fauteuil roulant. On m'a pas dit ça, mais quand je vois certaines personnes qui ont la fibromyalgie, et c'est comme ça. Franchement, faut vraiment pas croire ces médecins et se dire il y a toujours une lueur d'espoir et faut se donner à fond, quoi.
Bon, bah, top. Merci en tout cas pour ton temps. J'étais ravi de faire cette connaissance, Violette. Bravo encore pour ce très beau succès. On a hâte de voir la suite et la sortie du bouquin. En tout cas, on pourra en parler, le relayer. Et puis, on te souhaite bonne continuation finalement, parce que ça va pas être non plus simple de continuer avec cette maladie. Tu t'y habitues, c'est vrai, mais ça reste des efforts au quotidien. Donc, beaucoup de courage.
Bah, merci à toi, Pierre-Arnaud. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir.
Avec plaisir. À bientôt.
À plus. À bientôt. Je sais pas. Excusez-moi.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.